N'importe qui peut donner des coups et mettre quelqu'un par terre, mais cette espèce d'auréole, de aura, très peu la possèdent, et je crois que ce sont ces hommes-là qui font un grand prestige, même s'ils ne sont que boxeurs et pas des hommes de la race de Proust.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Amaury Chardot.
Une page d'histoire mise en musique, Jukebox qui a pris ses quartiers d'été vous propose chaque week-end à 19h une série de rediffusions. Bonsoir à tous. Boxeur, l'homme dont nous vous parlerons aujourd'hui l'avait été à sa façon. Boxeur, castagneur, mais aussi poète, aventurier, flambeur, neveu d'Oscar Wilde et précurseur du futur mouvement Dada. L'étonnant personnage dont il sera question ici s'appelait Arthur Cravan et avait vécu au tournant des 19e et 20e siècles, faisant de son existence une véritable fiction. Dans cette histoire, nous croiserons une tempête, une feuille de chou trempée dans l'acide, des sympathies anarchistes, des demandes en duel et deux hommes dans une arène à taureaux. Ce soir, Arthur Cravan, boxer sa vie. Buenos Aires, il devait aller rejoindre sa femme, sa chère Mina, épousée à Mexico le printemps précédent et qui, quelques jours plus tôt, avait embarqué, seule, enceinte de son enfant, à bord d'un navire sanitaire japonais. Lui la rejoindrait plus tard par ses propres moyens. En Argentine, il avait prévu, comme il l'avait toujours fait, d'aller se réinventer loin de la grande boucherie qui ensanglantait le monde depuis 4 ans. Pour cela, il avait acheté un petit bateau à Puerto Angel qu'il devait convoyer jusqu'à Salina Cruz, un peu plus à l'est, où, après avoir retrouvé deux marins et un de ses amis, il mettrait ensuite cap au sud. Sauf que cette nuit de début novembre 1918, les éléments en avaient décidé autrement. La côte ouest du Mexique, certes moins sujette aux ouragans que la façade caraïbe, était depuis quelques jours balayée par une violente tempête, laquelle était, cette nuit-là, en train de tout foutre en l'air et de projeter Cravan par-dessus bord. À ce moment précis, l'histoire est quasiment pliée. Cravan a beau lutter, mouvoir comme il le peut dans les courants et les vents, son corps de colosse, ses 2 mètres et plus de 100 kilos, dans l'eau glacée cette nuit-là, ses forces l'abandonnent. Tandis qu'il sombre dans les flots, il se remémore alors un texte écrit 3 ans plus tôt où il s'interrogeait. « Quelle âme se disputera mon corps? J'entends la musique. Serais-je entraîné? Ce soir, quelle est ma méprise qu'avec tant de tristesse tout me semble beau? Je voudrais être à Vienne et à Calcutta, prendre tous les trains et tous les navires, forniquer toutes les femmes et baffrer tous les plats. Mondain, chimiste, putain, ivrogne, musicien, ouvrier, peintre, acrobate, acteur, vieillard, enfant, escroc, voyou, ange et noceur, millionnaire, bourgeois, cactus, girafe ou corbeau, lâche, héros, nègre, singe, donjouan, souteneur, je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux. » Ainsi avait été Arthur Cravan, mégalomane et poète, provocateur et puncheur, partout et nulle part, créant à coup de volonté sa propre trajectoire, érigeant à force, et non sans farce, sa propre version de la vérité.
that I haven't shook my shadow. And every day is trying to trick me into doing battle. Calling out fake up, wanna get me rattled. Wanna pull me back behind the fence with the cat. Building your lenses, digging your trenches. Put me on the front line, leave me with a dumb mind. With no defenses, but your defenses. If you can't stand to feel the pain, then you are senseless. Since then, I've grown up some different kind of fire. And when the darkness comes, let it inside you. Your darkness is shining, my darkness is shining. Have faith in myself. Truth. I've seen a million number doors on the horizon. Now which is the future you're choosing before you gon' die? And I'll tell you about a secret I've been undermining. Every little lie in this world come from the vine. Say you're my love, say you're my home. Till my chin back, slit my throat. Take a bath in my blood, get to know me. All out of my secrets. All my enemies are turning into my teachers. Speak up, light's blinding, no way dividing. What's yours or mine when everything's shining? Your darkness is shining, my darkness is shining.
Mais je ne fais qu'aimer, aimer, aimer la vérité. Truth par le musicien américain Alexander, alias Alex Hébert, sorti en 2011. La vérité. Mais de quelle vérité parle-t-on? Arthur Cravan était-il vraiment mort cette nuit de novembre 1918 à 31 ans dans les eaux tempétueuses et mexicaines du Pacifique? Son corps n'ayant jamais été retrouvé, certains longtemps en douteront et son destin donnera lieu à toutes sortes de fantasmes. Des fantasmes dont lui-même, sa vie durant, n'avait cessé de jouer. C'est ainsi que naissent les légendes. Dans la foulée de son décès supposé, la police mexicaine avait retrouvé au bord du Rio Grande del Norte un corps dont le signalement, grande taille et cheveux blonds cendrés, aurait pu correspondre au sien. Alors, où était-il mort? Ici ou là? Et d'ailleurs, était-il seulement né? D'autant qu'Arthur Cravan n'est pas né Cravan. Lequel n'était qu'un pseudonyme, un nom de plume inspiré par le lieu de naissance de sa première fiancée, originaire d'un village de Charente-Maritime du même nom, et qu'il avait adopté en 1911 en même temps que ses premières velléités littéraires. De fait, chez lui, le jeu sur l'identité était devenu une seconde nature. En réalité, Cravant était né Fabian Avenarius Lloyd, avec deux L. Né en mai 1887 en Suisse, à Lausanne plus précisément, où s'était établie alors une petite communauté de la haute société britannique venue s'installer dans ces Alpes suisses en quête d'air pur et de tranquillité. Le jeune Fabian Lloyd est très tôt conscient de son pédigré, notamment de ce grand-père qui avait été en son temps conseiller de la reine. Autre ascendance prestigieuse qui lui servira plus tard de sésame pour se frayer un chemin dans la société littéraire, il est le neveu d'Oscar Wilde, le poète mythique et bête noire de la société anglaise qui avait épousé la sœur de son père. Ses titres, le jeune Lloyd en avait fait très tôt une fierté, ne manquant jamais par la suite de les décliner, notamment au moment de monter sur le ring. Ainsi était Arthur Cravant, fier, frimeur et show-off.
I'm such a fool for you. Oh, yes, I'm such a fool, but don't leave me. Please don't leave me. Go ahead and put on your show, but baby, don't go. Show off. Tell all your friends, show off. Tell all the town, show off.
Show-off 1967 par la chanteuse Bobby Gentry, alias Roberta Lee Stritterney, originaire du Mississippi. Arrêtons-nous un moment sur les premiers pas d'Arthur Cravant, alias Fabian Lloyd. Après une enfance choyée dans un internat suisse huppé, ce gamin turbulent est souvent renvoyé de l'école. Il est envoyé par faire sa culture en Angleterre, dans le Sussex. Il y acquiert une solide éducation, parle l'anglais, le français et l'allemand. Par la suite, il voyage pas mal, multiplie les petits boulots à travers l'Europe. Il est d'abord à Berlin comme chauffeur particulier, mais il est mis à pied au bout d'une semaine après avoir cassé la voiture dont il avait la charge. « Vous vous faites trop remarquer », lui aurait-on dit. Il voyage ensuite à Birmingham, où il se met à écrire des poèmes. On l'aperçoit à Munich, où son frère Otto est artiste peintre. En 1906, il a 19 ans et, selon ses dires, il se ferait alors embaucher sur un cargo en partance pour l'Australie. Grâce à l'argent que lui envoie sa mère, il se rend ensuite à New York, puis en Californie, où il gagnerait sa vie en cueillant des oranges, au Japon, où il étudierait le jujitsu, à San Francisco, où il deviendrait barman, charmeur de serpents, bûcheron, puis cheminot, allez savoir ce qui est vrai. Aux États-Unis, il se ferait également passer pour le fils d'un boxeur célèbre sur place, dont il serait le fils caché, le jeu avec la vérité, déjà et toujours. De retour en Europe, il voyage en Italie. Ses travaux d'écriture lui prennent de plus en plus de temps. Enfin, il débarque à Paris en 1909. Il s'installe dans le quartier latin où vit également son frère. Il s'éprend d'une certaine Renée Boucher avec qui il se fiance, fréquente un peu les bancs de la Sorbonne et surtout, brandissant sa parenté avec Oscar Wilde, il se lie avec certains des artistes parisiens les plus en vue. Les peintres Kees Van Dongen, Sonia et Robert Delaunay, l'écrivain Blaise Cendrars, toute une petite troupe joyeuse qui l'accompagne dans de folles soirées qui finissent souvent dans les bars de Montparnasse ou bien au bal Bullier où, excentrique, Cravant danse le tango dans des chaussettes de soie de couleur dépareillée. Je marche, je parle et je souris comme je l'entends, The Way I Walk, par le groupe américain The Cramps, 1979.
Ce Cravant a laissé des manifestes divers et ce qu'il appelait des prosopoèmes, qu'il écrivait ou publiait volontiers sur du papier de boucherie. C'est pas facile d'en avoir sous la main.
En 1912, Fabienne Lloyd, qui jusqu'alors n'a écrit que quelques gentils poèmes, décide de tenter sa chance dans la mêlée littéraire. Il commence donc par se choisir un nom de scène. Ce sera Arthur Cravant. Cravant, du nom du village de naissance de sa fiancée Renée, et Arthur, sans doute, pour Rimbaud. En avril de la même année, il sort le premier numéro d'une revue littéraire qu'il a créée et baptisée « Maintenant ». 8 pages qu'il distribue lui-même dans la rue, notamment à la sortie du cinéma Le Gaumont Palace, place de Clichy, assisté de certains de ses amis, notamment le fils d'un restaurateur auvergnat, Jourdan, chez qui il laisse des ardoises monumentales qu'un ami de la famille doit passer éponger. Dans le premier numéro de cette revue, on trouve notamment un article intitulé « Documents inédits sur Oscar Wilde », mais aussi une notice nécrologique acerbe se félicitant de la mort récente d'un peintre de l'Académie. Les textes sont tous de lui, signés de plusieurs pseudonymes, histoire de faire plus riche. Des textes féroces, écrits au vitriol, dans lesquels il s'en prend à peu près à tout le monde de l'art d'alors. Dans un article publié dans le numéro 2, en juillet 1913, il descend ainsi, en quelques lignes, André Gide, qu'il avait pourtant reçu 2 ans plus tôt. Gide qui, je cite Cravant, « n'a pas l'air d'un enfant d'amour, ni d'un éléphant, ni de plusieurs hommes, il a l'air d'un artiste ». Et je lui ferai ce seul compliment au reste désagréable que sa petite pluralité provient de ce fait qu'il pourrait très aisément être pris pour un cabotin. Ses mains sont celles d'un fainéant, très blanches. Cravant a le goût de l'irrévérence et du scandale qu'érigeront par la suite en manière d'être les artistes du mouvement Dada, comme l'explique l'écrivain Georges Ribemont de Seigne dans cet archive de 1951.
Le scandale à l'époque dont nous parlons en ce moment, c'est-à-dire 1913, était-il déjà entré dans les mœurs de vos amis ou de vous-même?
Bien entendu, le scandale est devenu un des éléments les plus actifs de l'effort destructif des valeurs établies. Il ne s'agissait plus de remplacer une école par une autre. Or, il était remarquable que l'apparition d'une école nouvelle provoquait le scandale. Scandale du cubisme, scandale du futurisme, scandale du simultanisme. Car il y avait à ce moment aussi le simultanisme. Étonnant étaient Henri Martin Barzin, Fernand d'Ivoire, Sébastien Voirol. Il y avait aussi Sandrard qui publiait son Transsibérien après Cravant qui avait publié son Pâques à New York. Il y avait toujours Apollinaire, qui est tout naturel d'en arriver à utiliser le scandale comme arme.
J'ai toujours été l'autre que l'on n'aime pas. Ce coureur qui part mais ne gagne pas, gagne pas. Et pour sortir de l'ombre qui pèse à mes pas, je fais ma fortune au mépris des lois, des lois. Ah, malheur à celui par qui le scandale arrive. Ah, je suis celui.
Malheur à celui par qui le scandale arrive, Eddie Mitchell, 1968. Le scandale et la provocation, Cravant en use et en abuse. Dans le numéro 3 de sa revue, il prétend qu'Oscar Wilde serait toujours vivant, suscitant des reprises dans la presse du monde entier. Lors d'une conférence donnée en 1913 dans un cercle littéraire parisien, il accueille le public muni d'un gourdin, clamant son mépris de l'artiste, regrettant que le choléra n'ait pas emporté à 30 ans les grands poètes, ce qui leur eût épargné une vie mesquine. L'année suivante, il tire au pistolet et fait l'éloge des voleurs et des fous. Dans sa revue, Cravant tire sur tout le monde. Il raille Guillaume Apollinaire, qu'il trouve malin de qualifier de juif. Il s'en prend également à la maîtresse de ce dernier, la peintre Marie Laurencin, au sujet de laquelle il écrit « En voilà une qui aurait besoin qu'on lui relève les jupes et qu'on lui mette une grosse quelque part ». Apollinaire décide d'envoyer ses témoins à Cravant, mais l'affaire en reste là. Plus tard, il finit par se battre avec ses amis, le couple Delaunay, sans doute jaloux de Robert et surtout imbibé de bière. Cette fois-ci, l'histoire finira devant le tribunal qui condamnera Cravant à 8 jours de prison. Drôle d'hurluberlu que ce type qui, décidément, ne respecte rien ni personne. Métronomique, aujourd'hui Arthur Cravant, esthétique de la provoque. Disrespectful par la chanteuse américaine de Chicago, Chaka Khan, publié en 2007.
Il y a un autre personnage dont vous ne nous avez pas parlé, et qui est Arthur Cravant, le poète boxeur qui se disait le neveu d'Oscar Wilde.
Et qui était le neveu d'Oscar Wilde.
Il était véritablement, oui.
Blaise Cendrars.
Par sa mère.
Et Delaunay, Cravant et vous formiez un trio qui ne passait pas inaperçu au Balbulier.
Oui, et qui s'attendait très mal. Il y avait toujours des bagarres.
Mais
alors, comme Cravant, en tant que boxeur, aimait bien la bagarre, et comme il savait le plus gros, le plus lourd et le plus fort de tous, en plus de ça, il y en avait des trucs d'hommes de métier, pour ne pas dire d'hommes de main, et c'était un peu un bravo, mais un grand trouillard dans le fond. Mais pas aussi trouillard qu'à Pougnard, parce qu'un jour il devait se battre en duel, ils ne se sont jamais battus en duel, le duel n'a pas eu lieu. Et a donné lieu à ce fameux procès-verbal qui a paru de la revue de Cravant, laquelle revue s'appelait Maintenant.
Oui. Et lui-même, Cravant, est-ce qu'il n'avait pas une tenue Cravant, plutôt curieuse
des chemises de couleur plutôt sombre.
Est-ce qu'il ne portait pas déjà les chemises par-dessus, enfin les pans de sa chemise par-dessus le pantalon?
Oh, il laissait pendre les pans de sa chemise par derrière. Et pour faire croire aux gens que ses pans étaient bien embrunés, avant de se rendre au Balbulier, s'asseyait sur la palette de Delaunay. Oui. Ce qui faisait rugir Delaunay d'indignation, parce que Delaunay, à cette époque-là, employait beaucoup de lapis lazuli dans ses bleus, ce qui coûtait une fortune.
Si Cravant se permet à peu près tout, c'est que, à l'époque, il ne doute pas de sa force physique. Il lui arrive souvent, d'ailleurs, de se battre dans la rue, frappant tous ceux qui osent s'en prendre aux anarchistes avec lesquels il entretient des sympathies nombreuses. C'est que Cravant a les moyens de se faire respecter. Fort bien doté par la nature, outre une gueule d'ange, des lèvres épaisses et une belle mèche brune coiffant des traits réguliers et sereins, il est bâti comme un roc haut de 2 mètres, soit 30 cm de plus que la plupart des hommes de sa génération. Des qualités physiques dont il avait tiré profit en s'inscrivant dès 1910 avec son frère dans l'un des tout premiers clubs de boxe anglaise de Paris, situé Faubourg du Temple, où il suit l'enseignement du célèbre Fernand Cuny. La boxe, à l'époque, est un sport naissant en France.
Premier round. D'entrée, Gennaro se détend. La large swing du gauche, il atteint la face de Flamner. Il cherche immédiatement à placer un crochet, le manque.
En mars 1910, Cravant, qui à l'époque s'appelle encore Fabien Lloyd, se présente donc au championnat amateur de boxe anglaise qui se tient Salvagram. Catégorie mi-lourd, vu qu'à cette époque, il ne pèse que 77 kilos. Ça n'est pas encore le colosse qu'il deviendra plus tard. En finale, son adversaire malade ne se présente pas et voilà Cravant champion par forfait. L'autojournal le qualifie certes de très bon boxeur, vif, précis, frappant fort. Les 2 mois suivants, Cravant combat quelquefois à Angoulême ou à Bordeaux, mais sans grand succès. In fine, sa carrière professionnelle dure à peine 3 mois. C'est que cette nouvelle curiosité sportive, Cravant, davantage qu'en compétition, la pratique surtout dans des cercles mondains et notamment lors de boxing exhibitions organisées dans l'immense atelier de Kees Van Dongen, rue d'Enfer Rochereau, où chaque jeudi après-midi, critiques et artistes se retrouvent pour boire des liqueurs, assister à des effeuillages ou à différents numéros. Le peintre néerlandais se pique de Cravant, à qui il trouve des airs de Rembrandt et le représente à l'entraînement dans l'une de ses toiles. La boxe, la castagne, qui, chez Cravant, mauvais garçon, devient vite une sorte d'hygiène de vie.
Bye.
La boxe, cogner pour s'affirmer, gauche, droite, sautiller, léger sur ses appuis. Ceci dit, avouons-le, les quelques images qui nous sont parvenues de Cravant en train de boxer nous montrent surtout un type d'apparence lourde et pataude, remuant peu, se contentant de laisser ses adversaires renvoyés au rang de lilliputien, s'épuiser contre sa carrure massive. Un cachalot prenant des poses guerrières et inesthétiques, avait jugé de son côté Blaise Cendrars. À Barcelone, un jour de 1916, Cravant s'était quand même retrouvé à affronter Jack Johnson. L'immense Jack Johnson, devenu 8 ans plus tôt le premier boxeur noir champion du monde des poids lourds, la catégorie reine, en battant le blanc Tommy Burns lors d'une raclée à laquelle la police avait elle-même mis fin, interrompant les caméras qui filmaient l'humiliation du blanc. 2 ans plus tard, Johnson avait remis ça dans le Nevada face à l'ancien champion américain Jeffries, invaincu et qui avait décidé pour l'occasion de sortir de sa retraite afin de prouver, je cite, qu'un homme blanc est meilleur qu'un nègre. Sans succès, Jeffries avait lui aussi fini dans les cordes, traumatisant durablement l'Amérique blanche et raciste. Dans la foulée, Johnson avait épousé une blanche, obligé dès lors de quitter les États-Unis pour ne pas finir en prison. Et même si, en 1915, il avait finalement perdu son titre, c'est bien une légende de la boxe qui pénètre, un an plus tard, le dimanche 23 avril 1916, dans la Plaza de Toros Monumental de Barcelone, une arène circulaire de 8000 places utilisée pour les corridas, afin d'y affronter le jeune Arthur Cravant. Ce jour-là, malgré la publicité d'enfer faite par les promoteurs du combat, l'enceinte n'est garnie qu'à moitié, 4000 spectateurs environ, ce qui n'est pas si mal pour une exhibition. À la clé, pour le vainqueur, 50 000 pesos, soit le prix d'un billet de transatlantique. L'écrivain Mario Meunier évoque la rencontre de deux vagabonds à court d'argent, une exhibition de deux boxeurs vieillis. Il n'empêche, Johnson fait la preuve de son indiscutable supériorité. Prévu pour durer 20 rounds, le combat tourne court. Cravant, qui aurait débarqué ivre-mort, est envoyé au tapis à la 6e reprise. 6 petits rounds, et puis s'en va. Le lendemain, le journal La Vanguardia évoque une grande escroquerie. Peu importe pour Cravant, à qui ce combat apporte une aura mythique. Dadaïste et artiste contemporain s'enthousiasme pour sa prestation, voyant dans ce combat, bien plus que de la boxe, le premier happening, la première performance de l'histoire de l'art. Bagarreur, provocateur, courageux, pourtant Cravant n'est pas téméraire. Et lorsque la Première Guerre mondiale se déclenche, à la différence d'Apollinaire dont il se moquait et qui ne regimbe pas, lui, il se hâte de fuir, traversant l'Europe, muni de faux passeports. Il se rend d'abord en Grèce l'été 1914 où il se présente comme un boxeur canadien. Puis, après un passage éclair à Paris, le temps de publier le 5e et dernier numéro de sa revue, il gagne l'Espagne, donc, en vendant 2 tableaux, un vrai Matisse et un faux Picasso. Puis, à la fin de 1916, il embarque à destination des États-Unis. Sur le Montserrat, paquebot qui le conduit à New York, Cravant croise Léon Trotsky, exilé du RSS, et à qui il prédit qu'il sera sans doute trahi par ses camarades. « Merci de vos conseils, mon ami, mais je ne suis pas aussi cynique », lui aurait répliqué le révolutionnaire. Cravant, de son côté, confie à Trotsky sans embâge qu'il fuit ses obligations militaires. « Je préfère briser la mâchoire des Yankees plutôt que de me faire casser les côtes par les Allemands. Beau parleur, mais déserteur. »
Messieurs Conan Grand, men whose names are great, je vous fais une lettre. I am writing you a letter que vous lirez peut-être, that you will read perhaps, si vous avez le temps, if you have the time. Messieurs, qu'un homme grand, men whose names are great, je ne veux pas la faire. I don't want to do that. Je ne suis pas sur terre. I am not on earth. Pour tuer les pauvres gens. To kill miserable mankind. The pacifist. Messieurs con homme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, quand on me gronde, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. Il faut pas vous fâcher, mais il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des frères, j'ai vu partir des pères et des enfants pleurer. Les mères ont trop souffert quand d'autres se gouvergent et vivent à leur aise malgré le bout de sang. Il y a les prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai la porte. On est des années mortes, j'irai par les chemins. Je m'engrirai ma vie sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je dirai aux gens, profitez de la vie, éloignez la misère, les hommes sont tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre. Messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on homme grand, si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je serai sans âme et qu'ils pourront tirer et qu'ils pourront tirer.
Le déserteur par le trio Peter, Paul and Mary, 1964. En 1917, Cravant se trouve donc aux États-Unis, où son nom est déjà connu, ses frasques littéraires et mondaines faisant l'objet de recensions régulières dans la presse. Sur place, il est rejoint par Picabia et Duchamp. Ce dernier expose alors son célèbre urinoir, mais ne récolte que du scandale. À New York, Cravant donne une conférence sur les artistes indépendants de France et d'Amérique, mais la prestation tourne court. Il se pointe chancelant et ivre, tape du poing sur la table et commence à se déshabiller. Il est emmené, menotté et traîné par les policiers en criant son indignation.
I'm a roving gambler, I've gambled all around. Whenever I meet with a deck of cards, I lay my money down. Gamble down in Washington, I've gambled over in Spain, going down to New Orleans to gamble my last game. I hadn't been in Washington many more weeks than three, when I fell in love with a pretty girl. She fell in love with me, tucked me in her parlor, and she cooled me with a fan. Whispered low in her mother's ear, I love that gambling man. Daughter, oh my daughter, how could you treat me so? To leave your dear old mother here, and with a gambler go. Mother, oh my mother, you know I love you well, but the love I feel for that gambling man, no human tongue can tell. I hear the train a-blowing, coming round the curve, whistling and blowing and straining every nerve. I'm a roving gambler and I gamble all around. Whenever I see a deck of cards, I lay my money down. Lay my money down. Lay my money down.
Roving Gambler, enregistré en 1956 par Robert Mitchum. Pareillement, aux États-Unis, Cravant est un joueur itinérant, à la recherche permanente de sensations fortes, d'argent et de conquêtes féminines. En avril 1917, il entame une liaison avec une journaliste, ancienne correspondante de guerre. Plus tard, lors d'une soirée à Manhattan chez les époux Arensberg, mécènes de l'avant-garde artistique et intellectuelle américaine, il rencontre, au cours d'un bal costumé, la poétesse anglaise Mina Loy, avec qui il entame une intense passion. Pendant ce temps, il continue à écrire un peu, travaille comme traducteur. L'entrée en guerre des États-Unis rend sa situation délicate. En juin, il doit remplir un formulaire d'enquête en vue de la conscription militaire obligatoire. Il passe alors au Canada, espérant échapper à l'enrôlement. Mais en décembre 1917, c'est du côté du Mexique qu'il trouve finalement refuge, rejoint le mois suivant par Mina Loy. En avril 1918, le couple se marie à Mexico. Là, Cravant ouvre une école de boxe dont la presse se fait l'écho. Il continue lui-même un peu à boxer, affronte en août le champion en titre du Mexique, mais perd ensuite par KO en deux petits rounds contre un certain Jim Smith. La presse mexicaine dénonce une fumisterie bon marché. Peu importe à Cravant que l'amour de Mina comble.
Palabras de mujeres que yo escuché cerca de ti, junto de ti, muy quedo, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer las digas, soy yo santo. Palabras de mujer, aunque no quiera yo ni quieras tú, lo quiere Dios, y hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración, a ti estaré también en el dolor. Aunque no quiera yo ni quieras, tú lo quieres. lette le nilo, lette seguirà mia. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. No quiera yo ni quieras tú, lo quiere Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo.
Je parfumerai ton inspiration, je serai à tes côtés, y compris dans la douleur, jusqu'à l'éternité, mon amour te suivra. Composé par le musicien mexicain Agustín Lara, ce Palabras de Mujer, paroles de femme, interprété ici par le chanteur espagnol Gregorio Barrios, qui avait effectué une grande partie de sa carrière en Argentine. L'Argentine, où cette fin d'année 1918, Scravant et sa femme Mina planifient un ultime voyage. L'été précédent, Mina est tombée enceinte. Affaiblie, elle embarque sur le premier bateau disponible. Arthur lui promet de la rejoindre au plus vite. Ce qui nous ramène à l'océan, dans lequel, une nuit de novembre, Arthur sombre accidentellement, alors qu'à l'autre bout du monde, l'Europe s'apprête à faire taire les armes. Image grise, Dorian Gray, juste moi, au bord de l'eau. Je me sentais comme une étoile. Le monde aurait pu aller loin s'ils avaient écouté ce que je disais. The Ocean, par les Irlandais du groupe U2, 1980. Ainsi donc, une tempête dans le golfe du Tehuantepec avait mis un terme à la trajectoire fulgurante du touche-à-tout génial Arthur Cravant. Boxeur, dilettante, anarchiste, dandy révolté, génie de la provoque et de la mystification. Cette disparition prématurée, beaucoup avaient d'abord refusé d'y croire, notamment dans les cercles artistiques. L'année suivante, en 1919, Picabia avait annoncé une conférence à venir sur l'art égyptien que Cravant, professeur de culture physique à Mexico, allait tenir. À Buenos Aires, où elle attendait son arrivée, Mina Loy se lancera pendant des années à sa recherche, retournant en Angleterre pour donner naissance en avril 1919 à leur fille, Jemima Fabienne Bénédicte Lloyd. L'enfance, au sujet de laquelle Cravant écrivait « Il faut regarder le monde comme le fait un enfant, avec des grands yeux stupéfaits, il est si beau. Aller courir dans les champs, traverser les plaines à fond de train comme un cheval, sauter à la corde et quand vous aurez 6 ans, vous ne saurez plus rien et vous verrez des choses insensées. Knocking Myself Out par la chanteuse de blues Lil Green que se referme ce Arthur Cravant, Boxer sa vie, diffusé pour la première fois dans Métronomique le 4 mai 2018. Rendez-vous sur franceculture.fr pour écouter ou télécharger cette émission. Vous y retrouverez également la liste des morceaux diffusés et les références des archives. À lire les œuvres d'Arthur Cravant publiées en France chez Gérard Lebovici. Arthur Cravant précipité par Bertrand Lacarelle chez Grasset, mais aussi la bande dessinée signée Jack Manini et parue chez Bambou. À la préparation, c'était Cyril Baer, Antoine Villos de la discothèque. À la console, c'était Bernard Laniel, Anne Kobilac à la réalisation, au micro et au stylo à Maurice Chardot. À samedi prochain, 19h, pour une nouvelle rediffusion estivale de Jukebox, nous serons en Afrique du Sud.